Bienvenue, le journal Alexis Morel. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Et à la une ce matin, la détresse d'une jeune Algérienne au soir de sa vie. Kenza, hospitalisée à Paris en phase terminale d'un cancer, veut faire venir ses proches en France, mais leurs demandes de visa sont refusées. On vous raconte son histoire. Barrage routier, station-service fermée, le climat social se tend encore un peu plus en Guadeloupe ces dernières heures contre les mesures sanitaires. Une grève générale vient de démarrer sur l'île, précision à suivre. Dans ce journal aussi, la nouvelle guerre des 35 heures entre le gouvernement et Anne Hidalgo. Ces échanges de politesse entre Xi Jinping et Joe Biden pour leur premier sommet cette nuit. Et les bleus du foot en Finlande ce soir. La Finlande où c'est plutôt le hockey sur glace qui d'habitude passionne les foules.
Et Léa Salamé dans 20 minutes reçoit aujourd'hui le porte-parole du nouveau parti anticapitaliste, candidat à l'élection présidentielle, Philippe Poutou.
France Inter.
Elle n'a qu'une demande, Alexis, terminer sa vie aux côtés des siens.
C'est un témoignage poignant que vous allez entendre. Une histoire familiale, mais qui s'inscrit dans un contexte plus large. Les relations tendues entre la France et l'Algérie ces derniers mois. Kenza Kassel a 24 ans. Cette Algérienne souffre d'un cancer du système lymphatique. Soignée en France depuis 6 ans, la jeune femme est aujourd'hui en soins palliatifs dans un hôpital parisien. Sa sœur, son frère et son père, restés en Algérie, souhaiteraient la rejoindre pour l'accompagner dans les derniers jours de sa vie. Mais pour l'instant, c'est un non catégorique de l'administration française. Demande de visa refusée. C'est le récit de Sébastien Sabiron.
Alitée, sous oxygène et alors que toutes les options de traitement sont épuisées, Kenza n'a jamais perdu espoir, celui de retrouver son frère aîné, sa sœur et son père.
Ce qui m'a aidée durant ces 6 années toute seule avec la chimio, c'est le fait de penser à ma famille. J'imagine toujours qu'ils sont ici, présents, comme avant.
La mère de Kenza a pu venir à son chevet avec un statut d'accompagnatrice, mais son frère, Mend, s'est vu par 2 fois refuser sa demande de visa. Raison invoquée par la France, l'existence d'un doute raisonnable quant à son intention de rentrer à terme en Algérie. Un malentendu, estime-t-il.
Je demande à monsieur le consul d'avoir un sentiment d'humanité pour exaucer la dernière volonté d'une jeune femme condamnée à mort. Je ne vais pas sacrifier ma vie professionnelle et ma vie familiale en allant chercher un projet de clandestinité.
Rémi Duléry, le médecin de Kenza à l'hôpital, s'est lui-même fendu d'un courrier au consulat général de France à Alger, courrier resté lettre morte.
Évidemment, il y a un combat pour guérir les patients, mais notre travail, c'est aussi d'être là pour eux. Et dans ces situations de fin de vie, c'est vraiment peut-être la moindre des choses. Qu'elle ait au moins le droit que son frère fasse un simple voyage de quelques jours pour la voir une dernière fois.
Sollicité par France Inter, le ministère des Affaires étrangères n'avait pas donné suite hier soir à notre demande d'interview.
La détresse de Kenza et de sa famille, récit signé Sébastien Sabiron pour Inter. Les élèves français semblent avoir rattrapé le retard accumulé pendant la crise sanitaire. Les résultats des évaluations nationales menées à la rentrée sont dévoilés ce matin. Eh bien, en français comme en maths, les écoliers de CP et de CE1 retrouvent le niveau d'avant Covid. En revanche, même s'ils se réduisent, des écarts importants demeurent entre les élèves de l'éducation prioritaire et les autres.
Et sur le plan sanitaire, 7h33, le taux d'incidence repasse au-dessus des 100 cas pour 100 000 habitants en France.
Une première depuis 2 mois. En Guadeloupe, il est pour l'instant plus bas que la moyenne nationale, ce taux d'incidence. Mais sur l'île des Antilles, la poussée de fièvre est surtout sociale ces dernières heures. Les syndicats locaux ont lancé une grève générale illimitée contre le pass et l'obligation vaccinale des soignants. 2 pompiers ont été blessés dans des affrontements avec les gendarmes au cours d'une première journée émaillée d'incidents, Yann Gallic.
Des barrages érigés sur les routes, des pompiers qui occupent un rond-point, des stations-service fermées. La tension est encore montée d'un cran en Guadeloupe. Les manifestants rejettent toujours l'obligation vaccinale pour les personnels soignants. Une atteinte aux libertés, estime Gabi Clavier. Il est délégué syndical de l'Union des travailleurs de la santé au CHU de Pointe-à-Pitre.
Cette obligation vaccinale nous est donc une vaccination que nous refusons pour la plupart, qui est inadmissible. Plusieurs centaines d'agents hospitaliers sont suspendus pour la plupart depuis 15 jours.
Au CHU, la plupart des soignants sont aujourd'hui vaccinés, mais le taux d'absentéisme atteint 30% dans certains services. Si cette grève générale prend de l'ampleur, la situation pourrait encore s'aggraver, selon Jocelyn Sapotille, le maire de Lamantin et président de l'Association des maires de Guadeloupe.
C'est devenu une crise économique, sociale, voire sociétale. On se dit comment on va faire pour s'en sortir. Plus que le problème de la vaccination, le problème du pass sanitaire peut encore diviser davantage la société. société parce que ça ressemble effectivement à de la ségrégation quand on vous dit que les non-vaccinés ne peuvent pas accéder à certains lieux. Même si moi je ne partage pas cet avis-là, c'est vécu comme cela, on ne peut pas ignorer cela.
Malgré la contestation en Guadeloupe, le taux de vaccination chez les plus de 12 ans progresse peu à peu. Désormais, plus de 43% de la population a reçu au moins une première injection.
Yann Gallic, les sympathisants de droite qui veulent participer au choix du candidat pour la présidentielle ont jusqu'à ce soir pour adhérer au parti Les Républicains. Condition sine qua non pour avoir une voix au congrès d'investiture de début décembre. Cette perspective fait bondir le nombre d'adhésions. LR comptait hier soir 132 500 adhérents, 67% de plus par rapport à la fin septembre. Et sur fond de campagne présidentielle justement, un bras de fer oppose en ce moment le gouvernement à la ville de Paris et sa maire, Anne Hidalgo, accessoirement candidate pour 2022. L'exécutif accuse la capitale de rechigner à appliquer la loi sur la transformation de la fonction publique. Concrètement, à compter du 1er janvier, les agents communaux seront tenus de travailler au moins 35 heures par semaine. Mais à Paris, Antoine Gignot, on serait encore loin du compte.
L'idée à la mairie de Paris, c'est d'augmenter le temps de travail pour s'adapter à la loi, tout en créant en parallèle trois nouveaux jours de congé, justifiés, selon l'équipe d'Anne Hidalgo, par l'intensité du travail spécifique à la capitale. Une disposition retoquée par le tribunal administratif qui doit maintenant être arbitrée en appel et qu'Amélie de Montchalin, ministre de la fonction publique, juge inacceptable.
Il me semble qu'il y a une forme d'irrespect envers l'ensemble des fonctionnaires qui sont, eux, au moins à 35 heures partout dans le pays. Je ne vois pas comment une candidate à la présidentielle peut entrer dans une campagne en s'asseyant manifestement sur une loi qui a été votée démocratiquement.
En face, l'équipe d'Anne Hidalgo assure qu'elle soutient l'idée globale d'une réduction du temps de travail à l'échelle de la France, mais se défend de toute instrumentalisation. S'il y a une démarche politique, c'est celle du gouvernement, rétorque Antoine Guillou, adjoint en charge des ressources humaines.
Le gouvernement essaye de faire preuve d'un activisme au moins médiatique en cette dernière année de quinquennat et ne parvient pas à masquer tout ce qui n'aura pas été fait pour les fonctionnaires, pour la fonction publique.
Et les élus parisiens risquent de ne pas être les seuls face aux tribunaux administratifs. Comme Strasbourg ou Clermont-Ferrand, des milliers de communes en France risquent, au 1er janvier, d'être considérées hors la loi.
Un nouveau rebondissement dans l'affaire de l'agression d'une joueuse du PSG, Keira Amraoui. L'enquête vient d'être confiée à un juge d'instruction. Je vous rappelle les faits. La footballeuse frappée violemment à coups de barre de fer il y a 10 jours. Sa coéquipière Aminata Diallo, placée en garde à vue la semaine dernière avant d'être libérée sans aucune charge. Eh bien ce matin, voilà qu'un nouveau nom fait son apparition dans ce dossier, celui de l'ancien international Eric Abidal. Ariane Grissel.
Eric Abidal est un proche de Keira Amraoui à tel point qu'il est ressorti des premières investigations que la jeune femme utilise un téléphone portable dont la puce est au nom de l'ancienne internationale. Eric Abidal a été directeur sportif du FC Barcelone entre 2018 et 2020, année pendant lesquelles Keira Amraoui jouait dans l'équipe féminine du même club. La nature exacte du lien qui unit les deux sportifs intéresse désormais les enquêteurs. Lorsque la joueuse du PSG a été rouée de coups début novembre, les deux agresseurs ont, selon les footballeuses présentes dans la voiture, évoquait une relation qu'elle aurait eue avec un homme marié. Le parquet de Versailles précise toutefois que la piste d'une vengeance amoureuse n'est qu'une possibilité envisagée parmi d'autres et ajoute qu'Eric Abidal pourrait être entendu prochainement comme témoin, tout comme son épouse, même si c'est désormais au juge d'instruction à qui vient d'être confiée cette enquête qu'il revient de décider des modalités des futures auditions.
À l'étranger, le rendez-vous était très attendu. Sommet virtuel cette nuit entre le chinois Xi Jinping et l'américain Joe Biden, le premier du genre. Les contentieux s'accumulent entre les deux pays. Pourtant, les deux dirigeants ont joué l'apaisement, Sébastien Paour.
Joe Biden en costume sombre, cravate rouge, assis en bout de table dans le salon Roosevelt de la Maison Blanche, son homologue chinois sur deux écrans de télévision. Les drapeaux des deux pays derrière eux, interprète et chef de la diplomatie pas loin. Voilà l'image qu'on retiendra de ce sommet à distance entre les deux présidents. Avec leurs premiers mots, le reste se déroule sans micro ni caméra. Joe Biden commence par rappeler que les deux hommes ont toujours communiqué de manière très honnête et franche. Il estime que la compétition entre les deux pays ne doit pas se transformer en conflit, intentionnel ou non. Xi Jinping lui répond qu'il est très heureux de voir son vieil ami, qu'il est prêt à travailler avec lui, que la Chine et les États-Unis doivent améliorer leur communication et leur coopération. Les formules de politesse et les sourires ne doivent pas masquer les sujets qui fâchent, les échanges commerciaux, les droits de l'homme, Taïwan, revendiqué par Pékin, soutenu par Washington. Mais sur tout ça, il faut se contenter de la promesse des deux leaders, promesse d'une parole directe. L'entretien a duré environ 3 heures, il n'a pas fait l'objet de déclaration à la sortie. Washington Taïwan, Sébastien Paour, France Inter.
Et pas de déclaration commune, mais devant les médias chinois ce matin, Xi Jinping prévient tout de même les États-Unis qu'il ne faudrait pas jouer avec le feu sur Taïwan.
Aucune pression, enfin Alexis, que du plaisir ce soir pour les Bleus.
Ouais, l'équipe de France de foot est en terre scandinave, en Finlande, pour son dernier match de qualification au Mondial 2022. Mais pour les Français, c'est déjà fait. Ils ont empoché leur ticket pour la Coupe du Monde dès le week-end dernier. Il y a un peu plus d'enjeux pour les Finlandais qui vont eux tenter d'accrocher les barrages, ce qui suscite un peu d'intérêt auprès de la population locale, d'habitude bien plus passionnée par le hockey sur glace, le sport national là-bas, Cédric Guillou.
Une patinoire de 8200 places, pleine ou presque à tous les matchs de hockey sur glace de l'équipe phare de la capitale finlandaise, l'IFK Helsinki.
C'est le sport numéro un ici, on peut tout simplement le comparer avec le foot en France.
Johan Ovitu, défenseur de l'équipe de France de hockey sur glace, il évolue depuis 2 saisons à Helsinki.
Il y a une vraie culture hockey, tout le monde grandit en jouant au hockey.
Depuis un an pourtant, le football est en train de grignoter son retard de popularité sur le hockey sur glace, principal raison, la première participation de la Finlande à une phase finale de grand tournoi, c'était cette année lors de l'Euro 2020. Christian, 33 ans, habite près d'Helsinki.
L'équipe nationale joue les matchs compétitifs depuis 83 ans, mais là, c'était la première fois que la Finlande s'est qualifiée et le grand public s'intéresse de plus en plus, c'est clair.
Ce soir, le stade olympique d'Helsinki sera à guichet fermé pour ce match face à l'équipe de France. 30 000 supporters qui ne souhaitent qu'une chose, que leur équipe de football devienne un jour aussi appréciée et renommée que la sélection finlandaise de hockey sur glace. Helsinki, Cédric Guillou, France Inter.
Finlande, France, coup d'envoi 20h45 au stade olympique d'Helsinki.
Alexis Morel, merci. L'édito politique.